personnes ont quitté leur conjoint respectif et leurs enfants, sans raison biblique, pour se remarier. Et la question est la suivante. Il est dit en psaume 51 que David a commis l'adultère avec Bathsheba et en demande sincèrement pardon à Dieu qui passe l'éponge. N'est-il pas raisonnable de penser qu'il en va de même pour nous? Je ne puis parler pour Dieu, surtout dans un cas aussi épineux. Nous ne pouvons que sonder la Bible afin d'y trouver une réponse. En Actes chapitre 20, verset 32, il est dit effectivement « Je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. » Au premier abord, la question paraît simple et empreinte d'une certaine dose de logique. Mais on a tout fait de voir qu'il n'en est rien. De toute façon, baser sa vie sur une telle conjecture me paraît très léger. Peu d'êtres humains semblent prêts à vouloir payer le juste prix pour leurs erreurs. Il est sans doute plus aisé de chercher une solution de facilité, mais voyons le cas en question de plus près. David envoya Joab pour se battre à sa place contre les Ammonites. Et alors qu'il était toujours à Jérusalem, il aperçut une femme qui se baignait et qui était très belle, nous dit 2 Samuel chapitre 11, verset 2. Il s'agissait de Bathsheba, femme d'Uri le Hittite. Il couche avec elle et elle devient enceinte. David fit tuer Uri, le mari, pour dissimuler son péché. Dieu envoya Nathan, son prophète, pour parler au roi d'Israël d'un homme riche qui avait du bétail en quantité. Un pauvre, par contre, n'avait pour toute fortune qu'une petite brebis avec laquelle il partageait son propre pain et qui buvait même dans sa coupe. Elle était pour lui comme une fille, en 2 Samuel, chapitre 12, verset 1-6. Un voyageur se présente chez l'homme riche qui, pour le nourrir, ne trouve rien de mieux à faire que de donner l'ordre de tuer la petite brebis du pauvre afin d'en faire un repas pour le visiteur. David s'écria aussitôt, « L'homme qui a fait cela mérite la mort !» Et Nathan de lui dire, « Tu es cet homme-là. » Sa première douleur va se porter sur le bébé adultérin d'avec Bathsheba. L'enfant tombe malade et dépérit très vite. David prie pour lui, jeûne, couche par terre toute la nuit pendant une semaine. Malgré l'insistance de ses serviteurs, il refuse de s'alimenter. L'enfant meurt le septième jour. Alors seulement, David se lève pour manger et faire ses ablutions et dit, « Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? Moi, j'irai vers lui, mais lui ne reviendra pas vers moi. » 2 Samuel 12, 22. Dans un livre de contes, on pourrait presque inscrire à compte versé. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle, qui se nommait Tamar, et Amnon, fils de David, l'aima. 2 Samuel 13, chapitre 1. Il se saisit d'elle, lui fit violence et coucha avec elle. 1 Samuel 13, 14. Le roi David apprit tout cela et il fut très en colère. Absalom ne dit rien à Amnon, mais le prit en haine, parce qu'il avait fait violence à sa sœur Tamar, 1 Samuel 13, 21, 22. Le second paiement d'une dette venait d'être effectué. Et le troisième acompte, payé par David pour sa transgression, est encore plus évident. Le récit de cet épisode se trouve également en 1 Samuel, chapitre 13. La haine et le désir de vengeance d'Absalom contre Amnon, après être demeuré latente durant 2 ans, vont maintenant trouver leur accomplissement. Le roi va innocemment permettre à Absalom d'inviter Amnon d'aller avec ses autres fils et étendre le mouton à Baal-Hatsor pour une fête. Et 2 Samuel chapitre 12, verset 28, nous dit qu'Absalom donna cet ordre à ses jeunes gens. Faites attention quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin et que je vous dirai frappez Amnon, alors mettez-le à mort. Soyez sans crainte. N'est-ce pas moi qui vous donne l'ordre? Cet ordre fut exécuté et Absalom, fils de David, tué. Ses autres fils s'en furent tous horrifiés devant ce crime atroce. Il semble qu'une certaine partie de dette vient encore d'être payée, ne trouvez-vous pas? Voyons la quatrième et dernière dette d'une quadruple dette qui doit être payée. David avait donc déjà, premièrement, perdu l'enfant qu'il avait eu avec Bathsheba. Deuxièmement, perdu sa fille Tamar à cause de la folie incestueuse d'Amon. Troisièmement, perdu Amnon assassiné par Absalom, poussé au meurtre par son indignation. Pour clore cette série de drames, il faut encore mentionner la révolte d'Absalom contre son père David et le combat que vont se livrer les deux hommes. Absalom, en effet, utilise une arme terrible, l'influence. En 2 Samuel, chapitre 15, versets 2 et 4, il est dit qu'Absalom se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin qui menait à la porte, et chaque fois qu'un homme avait un procès et se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait « De quelle ville viens-tu ?» Lorsqu'il avait répondu « Ton serviteur est de telle tribu d'Israël », Absalom lui disait « Voici, ta cause est bonne et juste. » Mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Absalom disait, qui m'établira juge dans ce pays? Tout homme qui aurait un procès ou un droit à défendre viendrait à moi et je lui ferai justice. C'est comme ça qu'il va s'attirer les faveurs du peuple qui bientôt n'entendit parler que par lui. David dut bientôt fuir devant ceux qui étaient devenus des conjurés. David et ses partisans furent bientôt contraints de livrer bataille aux troupes d'Absalom, 2 Samuel 18. Mais David dit cependant, pour l'amour de moi, doucement, avec le jeune Absalom. Absalom se trouva en présence des serviteurs de David. Absalom était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous la ramure d'un grand chêne et la tête d'Absalom fut prise dans le chêne. Il resta entre ciel et terre pendant que le mulet qui était sur lui passait outre. 2 Samuel 18, 9. Joab prit en main trois épieux et les enfonça dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie, au milieu du chêne. Je n'ai pas l'impression que les personnes dont il était question au début de cet exposé et qui avaient quitté leur conjoint et leurs enfants, seraient prêts à payer un tel prix pour se voir pardonner. Dieu non plus, d'ailleurs, ne permettrait pas cela pour finalement accorder son pardon. Le peuple d'Israël va se repentir de son attitude vis-à-vis de David. David fléchit le cœur de tous ceux de Juda, comme s'il n'avait été qu'un seul homme, et ils envoyaient dire au roi, « Reviens, toi et tes serviteurs. » 2 Samuel 19, 15. La Bible dit clairement que ce que David avait fait à l'origine avec Bathsheba et Uri avait déplu à l'Éternel. Nathan, le prophète de Dieu, avait pourtant proclamé l'Éternel, « Pardonne ton péché, tu ne mourras pas. » 2 Samuel 12, 13. Mais que d'événements tragiques avaient suivi. L'Éternel ne les avait pas arrêtés. David s'était repenti et son cri s'était élevé, « J'ai péché contre Dieu. » Lorsque quelqu'un se détourne du chemin de la justice divine, il doit s'en repentir. Mais cela représente tout autre chose qu'un simple regret, une simple contrition temporaire. La repentance comprend une tristesse selon Dieu, ce qui nécessite un changement complet d'attitude, de comportement vis-à-vis du péché. On se tourne en fait vers Dieu. Cela signifie par conséquent que nous cessons de faire ce qui est mal. Si notre péché est de voler, de mentir ou de commettre l'adultère, nous devons nous détourner du vol, du mensonge, de l'adultère et nous séparer de cette violation de la volonté de Dieu. Ni le baptême, ni la confession publique d'une faute connue de tous n'ont quelque chose à voir dans une question d'adultère. La prière sincère, conversation intime avec le Seigneur, nous fait certes entrevoir le début de la route à suivre. L'adultère demeure l'adultère tant qu'il ne cesse pas d'être pratiqué. Aucune idée, aucune théorie personnelle n'y changera jamais rien. Certains cas revêtent un caractère véritablement dramatique. Et il est bien évident que nous n'avons envisagé durant ces courts instants que le concours de circonstances provenant d'une seule situation particulière. Mais chacun devrait se dire « ma situation relève de l'exception, d'une succession d'événements et de motifs uniques ». Non. Une chose n'en est pas moins certaine. C'est probablement vrai, mais le fond du problème demeure le même. Que faut-il faire ? Commencer par raisonner dans l'optique de la volonté de Dieu pour arriver à ne plus leurrer, comme pour le cas de David. Tournez-vous vers votre Créateur et il vous aidera, mais le voulez-vous vraiment ? Là, au fond de vous-même, dites-moi, le voulez-vous vraiment ?